À 8h, voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de 8h, car il est bien 8h en effet, si vous avez pensé à faire passer vos radios réveils en heure d'été, donc avancez d'une heure cette nuit. Dans l'actualité de ce dimanche, cet hommage national décidé par Emmanuel Macron, hommage rendu au gendarme Arnaud Beltrame, mort en héros, tué par le djihadiste de l'Aude. À suivre, la forte mobilisation des Américains pour une nouvelle législation des armes, une véritable marée humaine a envahi hier les rues de Washington. On retiendra également la démission du doyen de la faculté de droit de Montpellier, le doyen qui avait cautionné l'intervention jeudi de Nervi Cagoulé dans son établissement pour mettre fin à une manifestation. Enfin, côté sport, un nouveau titre mondial pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace à Milan. Rendez-vous dans le Journal des Sports présenté par Jean-Pierre Blimont.
France Inter.
Un hommage national sera donc rendu à l'officier de gendarmerie Arnaud Beltrame, tombé sous les balles du djihadiste de Trèbes et décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Ainsi en a décidé Emmanuel Macron au cours d'un conseil restreint de défense qui s'est tenu à l'Élysée dans la soirée. Le chef de l'État qui a tenu à saluer la mémoire de cet homme tombé en héros après s'être proposé pour prendre la place des otages. À une mort qui a suscité hier une vive émotion un peu partout en France, comme le témoigne ce reportage d'Étienne Esquer de France Bleu Orléans.
À la caserne d'Orléans, comme partout en France, les drapeaux sont en berne. Ici et là, des citoyens sont même venus déposer des fleurs, comme à Jargeau ou à La Motte-Beuvron. Et puis il y a tous ces messages de soutien qui affluent par milliers sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Des réactions qui touchent le colonel Pascal Segura, à la tête de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire.
Ce que j'observe, c'est qu'en situation de crise, il y a un sentiment totalement partagé, quasiment fusionnel. Là, nous trouvons le sens juste de l'action que nous menons au quotidien.
Pascal Segura a bien connu Arnaud Beltrame. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant 2 ans au ministère de l'écologie. Son geste héroïque ne l'a pas étonné.
J'ai pu apprécier les qualités à la fois humaines et professionnelles de cet officier. Tourné vers l'autre, avec un vrai sens relationnel, une vraie empathie, une volonté de servir son prochain. C'était une force de caractère, c'était une détermination dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il entreprenait. Quelqu'un qui s'abandonnait à la mission, qui avait vraiment à cœur de servir l'intérêt général et également l'intérêt particulier. C'était vraiment quelqu'un qui avait une abnégation, un dévouement, qui avait une générosité tout à fait exceptionnelle.
Arnaud Beltrame a également été commandant de compagnie au sein de la garde républicaine où il a assuré la sécurité du palais de l'Élysée. Il a aussi été déployé en Irak où il a été décoré de la croix de la valeur militaire.
Emmanuel Macron a également mis à profit ce conseil restreint de défense pour demander la convocation cette semaine par les préfets des responsables des services impliqués dans le suivi des personnes radicalisées. Il faut rappeler que le djihadiste auteur de ces attaques de l'Aude, Radouane Lagdim, était fiché S et faisait l'objet d'une surveillance. Mais ce n'est pas pour autant que cette vigilance permet d'éviter tout acte terroriste. Comme le rappelle Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret, ancien membre de la commission d'enquête sur les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes, joint au téléphone par Pierre Neveu.
J'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de critiques à l'égard de la DGSI, de la DGSE, de nos services de renseignement. Des gens disent, mais enfin, quelqu'un comme ça, il aurait fallu l'enfermer, il aurait fallu... Ben oui, il aurait fallu, mais s'il n'y avait pas d'indice, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dormantes en quelque sorte. Alors c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Et je rappelle que les fichiers S en France sont au nombre de 22 000. Et environ 12 000 pour des faits liés à la mouvance djihadiste. C'est dire l'ampleur du sujet. Par exemple, on ne peut pas surveiller 24 heures sur 24 ces 12 000 personnes. C'est rigoureusement impossible.
Une messe célébrée par l'évêque de Carcassonne et Narbonne aura lieu ce matin à 10h30 dans l'église Saint-Étienne de Trèbes en hommage aux victimes de ces attaques terroristes. Je vous rappelle que le bilan est de 4 morts, dont le gendarme Beltrame et de plusieurs blessés.
Mais l'actualité également, retour sur ces foules immenses d'Américains qui sont descendus hier dans les rues un peu partout aux États-Unis. Ils voulaient manifester contre les armes à feu.
Oui, une manifestation sans précédent des Américains, essentiellement des jeunes d'ailleurs, pour demander une réglementation plus stricte des armes à feu dans tout le pays. Une mobilisation faisant suite à la fusillade de Parkland qui avait fait 17 morts dans un lycée de Floride il y a un petit peu plus d'un mois de cela. À Washington, c'est une véritable marée humaine, qui a investi les avenues entre la Maison Blanche et le Capitole au cri de « plus jamais ça ». Sur place, le reportage de notre correspondant Grégory Phillips.
Pendant plusieurs minutes, Emma Gonzalez, devenue l'une des porte-parole des survivants de Parkland, impose à l'immense foule qui se presse sur Pennsylvania Avenue un très long silence.
Depuis que je suis montée sur cette scène, il s'est passé 6 minutes et 20 secondes. Le tireur vient de cesser ses coups de feu et d'abandonner son fusil automatique. Battez-vous pour vos vies avant que quelqu'un d'autre n'ait à le faire pour vous.
Au cœur de la capitale fédérale, ils sont donc venus par dizaines de milliers, des lycéens, des étudiants, mais aussi leurs parents ou leurs grands-parents. Alison et Elena, la mère et la fille, sont venues toutes les deux pour dire qu'il est temps d'avoir des lois plus strictes sur le contrôle des armes.
Nous avons eu assez. C'est fini. On va changer ça.
Est-ce que vous avez l'impression de vivre quelque chose d'historique, là ?
J'espère.
À la fin de la manifestation, des volontaires sont là pour dire aux jeunes de penser à s'inscrire sur les listes électorales, car les élections de mi-mandat approchent en novembre, et si ce mouvement veut perdurer, il devra se traduire aussi dans les urnes. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
L'université de Montpellier a annoncé la démission du doyen de la faculté de droit, Philippe Pétel.
Démission qui fait suite à des violences survenues jeudi soir dans un amphithéâtre de la fac lorsque des hommes cagoulés ont fait irruption dans la salle pour expulser à coups de latte en bois clouté les étudiants qui se trouvaient là pour protester contre la loi Vidal. Intervention musclée et violente dont s'était félicité le doyen démissionnaire. Marion Bargacci de France Bleu Héros.
Une démission comme un aveu de responsabilité pour Octave.
Cette milice armée cagoulée, elle est rentrée par une porte qui a été fermée par le doyen. J'ai vu la porte ouverte avec lui à côté, qui laisse rentrer ses gens, qui a ouvert la porte, quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux et ensuite j'ai fini au sol parce que je me suis pris deux coups de batte dans la tête. Si ça, c'est pas sanctionné, moi je sais pas dans quel pays je vis. Hein.
La démission de Philippe Pétel n'est qu'une première étape pour Sophie Mazas, avocate et présidente de la Ligue des droits de l'homme à Montpellier. Elle défend 5 jeunes qui ont déposé plainte.
La démission du doyen ne pourra pas l'exonérer de sa responsabilité pénale. L'enquête administrative est lancée. Certaines personnes étaient au courant avant de l'intervention, apparemment, de ce qui allait se passer. Il est impossible qu'un professeur ou un chargé d'enseignement qui a participé à cette opération de milice se maintienne dans l'établissement.
Parmi les agresseurs, certains jeunes auraient reconnu 2 professeurs de droit et 2 chargés de cours. Léna, victime et témoin dans l'amphithéâtre.
C'est pour ça aussi que vous avez si peu d'élèves en droit en fait, qui s'expriment dans les médias, parce que ils nous ont dit, mais nous, c'est nos profs, quoi. Ils ont peur de la répression, des conséquences que ça pourrait avoir sur leurs études.
Léna, elle, est en classe préparatoire littéraire, pas en droit. Elle n'aura donc pas de soucis pour ses examens. Les partiels, c'est dans 2 semaines. La faculté de droit reste fermée jusqu'à demain matin. Décision du président de l'université.
Marion Bargacci de France Bleu Héros.
Et pour refermer votre journal, Serge, une exposition à ne pas manquer si vous venez à Paris. Exposition gratuite dans les locaux de la Maison de la Radio.
Oui, une exposition consacrée à mai 68, toute la semaine, France Inter. Vous a fait revivre ces événements de 68. Eh bien, Radio France, associée à l'INA, vous propose de continuer cette plongée dans notre histoire contemporaine avec Silence Radio, une exposition gratuite donc qui se tient actuellement dans le hall de la Maison de la Radio. Une exposition consacrée à la vie agitée de l'ORTF et par conséquent de France Inter durant ces mois de révolte. Jacqueline Pétroz.
68 a aussi fait bouger le paysage audiovisuel. L'ORTF, alors sous contrôle, engage pendant les événements la confrontation avec le pouvoir. Archives inédites de l'INA, slogans, témoignages, racontent cette émancipation difficile. Christian Delporte, historien et commissaire de l'exposition.
Quand il y avait des images de manifestations, d'abord c'était uniquement des images de derrière les CRS, toujours muettes, avec un commentaire off du journaliste. Et finalement, ça n'a pas été le triomphe de la télévision, c'était le triomphe de la radio. Puisque à la radio, là, on avait des reporters qui faisaient vivre en direct les événements, de telle façon d'ailleurs que le gouvernement a coupé les transmissions parce que les manifestants utilisaient la radio pour se donner des rendez-vous. Et puis au début, en tout cas des événements, l'opinion était favorable aux manifestants.
Pour faire tomber les murs du silence, les journalistes manifestent une semaine entière. Une centaine sera licenciée. Mais il y a déjà ce lien avec les auditeurs, le courrier retrouvé par Camille Duchemin, la scénographe.
On a découvert vraiment des trésors de courriers d'auditeurs qui sont géniaux, qui sont contre la grève. Pour la grève, cette maison a une longue histoire très très riche.
3 étapes sonores et visuelles pour revivre cette phase désormais historique.
C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures.
Jacqueline Pétroz et Silence Radio, cette exposition qui se tiendra ici à la Maison de la Radio jusqu'au 29 juin. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Éric Delvaux.
Oui, Silence Radio, c'est pas tellement ce qu'on aime dire ce matin notamment. Merci, c'était le journal de Serge Martin.